sans frontières. C'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 3 avril 2026. Hier, devant l'Assemblée nationale, une foule que l'on estime à 10 000 personnes s'est rassemblée pour scander le ras-le-bol du mouvement communautaire. Des contingents de partout dans la province s'étaient donné rendez-vous sur la colline parlementaire. Selon les organisateurs, le mouvement ne s'arrête pas là. Le prochain rendez-vous a été fixé à Drummondville le 12 avril. Les détails restent à confirmer. Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé hier s'associer pour construire près de 865 nouveaux logements abordables partout au Québec. Parmi cette annonce, on compte le projet de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul, un terrain vacant depuis plus de 40 ans. Pour sa part, le comité populaire Saint-Jean-Baptiste reçoit avec beaucoup d'indignation l'annonce faite hier et dénonce l'obligation d'intégrer 20 % de logements dits abordables intermédiaires dans le projet. Ce sont des logements dont le prix maximal est fixé à 150 % des loyers plafonds du Programme d'habitation abordable Québec. Le Compop trouve ceci injustifiable et rappelle que ce terrain devait revenir 100 % à la communauté. L'organisme convoque d'ailleurs une manifestation le samedi 18 avril prochain. Action chômage de Québec vous invite ce soir, 19h, à une discussion autour du livre « La prochaine danse, au chevet d'un système malade » à la librairie Maud Tasse en présence des auteurs. Dans un essai percutant et rigoureusement documenté, Gabriel Pelletier et Maud Pelletier-Smith, à la fois chercheurs, intervenants, militants et proches aidants, dressent un portrait lucide d'une réalité trop souvent reléguée dans l'ombre. Le Maud Tasse est situé au 1394 Chemin Sainte-Foy. À l'occasion du congé pascal, voici ce qui sera ouvert ou fermé. Les services d'urgence et le 911 opèrent comme à l'habitude. Les épiceries à grande surface, les grands détaillants et les centres commerciaux sont ouverts aujourd'hui, mais seront fermés dimanche. Les pharmacies et dépanneurs sont généralement ouverts malgré le long congé, ainsi que les SAQ. La SQDC fermera ses portes dimanche. La collecte des ordures et du recyclage est maintenue selon l'horaire habituel. Les banques et caisses populaires seront fermées du 3 au 6 avril, ainsi que les services gouvernementaux comme Revenu Québec, la SAAQ, Poste Canada et Service Canada. Le 311 et ses centres de services seront fermés du 3 au 6 avril inclusivement. Pour des urgences concernant les réseaux d'aqueduc et d'égouts, par exemple, composez le 311 et faites le 1. Dimanche et lundi, les stationnements habituellement payants seront gratuits, excepté pour les rues autour des plaines d'Abraham. En ce qui concerne les autobus du RTC, consultez les horaires avant de vous déplacer. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'horaire du samedi qui prévaut. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bon congé pascal!
Toute simplicité. Ne crois pas que chaque journée compte une heure plus matinale, plus sacrée, plus aurorale que toute celle qu'il a déjà profanée, a perdu tout espoir en la vie et se trouve en marche vers des mondes plus bas, vers des obscurités plus grandes. Après sa cessation momentanée de toute vie sensible, l'âme de l'homme, ou plutôt ses organes, se trouve chaque jour revigorée et son génie entreprend une fois de plus de vivre la vie noble qu'il s'efforce de s'offrir. Tous les événements mémorables, devrais-je dire, baignent dans un temps de matin où sont imbibés d'une atmosphère matinale. Les Védas disent « toutes les intelligences s'éveillent au matin ». La poésie et l'art et les actions les plus belles et les plus mémorables de l'homme ont lieu à ce genre d'heure. Comme Memnon, tous les poètes, tous les héros sont les enfants d'Aurore et produisent leur musique au lever du soleil. À l'homme dont l'esprit souple et vigoureux suit le rythme du soleil, le jour est un matin sans fin, peu importe ce que dit la pendule ou ce que disent les attitudes et les labeurs des hommes. Le matin est là lorsque je suis éveillé et que j'ai de l'aube en moi. L'entreprise de réforme morale est celle qui consiste à se libérer du sommeil. Comment les hommes peuvent-ils livrer un si piètre récit de leur journée s'ils ne l'ont pas passé en état de somnolence? Ils ne sont pas si mauvais en calcul. S'ils n'avaient pas été vaincus par le sommeil, ils auraient accompli quelque chose. Les hommes sont par millions suffisamment éveillés pour le labeur physique, mais un seul sur un million est suffisamment éveillé pour produire une authentique forme d'effort intellectuel, et un sur 100 millions pour vivre une vie poétique ou divine. Être éveillé, c'est être en vie. Je n'ai, à ce jour, pas encore rencontré d'homme parfaitement éveillé. Comment aurais-je pu le regarder en face?
J'ai vu L'espérance est un mot qui s'exile dans la chair. Je mets sous ta rêve qui m'emmènera loin. Je mets sous ta rêve qui m'emmènera loin, loin.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va parler de zéro déchet. On a un invité, Jean-Yves Desgagnés, qui est du mouvement pour une ville zéro déchet. Et la semaine dernière, il y avait un événement zéro déchet parce que le 30 mars, c'est la journée mondiale de zéro déchet, de l'ONU zéro déchet. Donc, on avait un événement à la bibliothèque Gabriel Leroy, un panel de 4 invités, dont notre invité, M. Desgagnés. On a parlé de la situation des déchets à Québec, de comment on gère nos déchets. Alors, c'est de ça qui va être l'émission va être question aujourd'hui. J'ai, comme à l'habitude, je vous ai lu un extrait de Henri-David Thoreau, Walden, en début d'émission, puis aussi une pièce musicale de Richard Séguin, de son titre Retour à Walden, de son livre Retour à Walden. C'est le titre, c'est La Chandelle, qui fait référence, le chemin souterrain au noir que Thoreau, la famille de Thoreau, qui était très impliquée à l'époque dans le mouvement anti-esclavagiste et qui passait des fugitifs, des esclaves par des sentiers dans le bois, puis par les trains aussi, pour les amener au Canada, pour les sortir de l'esclavage. Et pour ceux que ça intéresse, c'est en anglais, mais c'est vraiment bon. Au réseau PBS, on vient de sortir une série documentaire, c'est 2 émissions de télé de 1 heure sur la vie de Henri-David Thoreau. On peut les télé... Moi, je les ai achetés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen qu'on peut l'écouter gratuitement. Je crois, à moins d'être abonné à PBS. Mais si vous ne voulez pas vous abonner à PBS, vous pouvez les acheter. Moi, je les ai achetés sur Apple TV. 10$ pour les 2 émissions. C'est très, très bien fait. C'est excellent. Et ça, si vous voulez connaître qui est Henri-David Thoreau, je vous recommande cette série documentaire sur le réseau PBS. Ensuite de ça, je suis allé voir un très beau film cette semaine. Le film, c'est Dans la forêt. Et ça nous parle, entre autres, des forêts anciennes. On ne réalise pas que les forêts anciennes, il en reste très peu. Puis dans le film, on nous explique comment ces forêts-là, c'est différent des forêts qu'on est habitué de voir. On réalise pas, mais la plupart des forêts, quand on dit on va en forêt, c'est des forêts dégradées en réalité. Il reste quelques forêts anciennes et c'est toute une expérience. Il y en a d'ailleurs près de Québec. Là, si vous allez à Stoneham, il y a un petit parc qui s'appelle le Mont Wright. C'est un petit sentier qu'on peut faire. On escalade une montagne, c'est pas une montagne très haute, mais le sentier, il y a toute une historique, là. Cette petite forêt-là n'a jamais été bûchée, n'a jamais été cultivée. Donc, c'en est un petit bout de forêt ancienne. Puis, effectivement, il y a une ambiance spéciale dans ces forêts-là. En tout cas, c'est un très beau film. Malheureusement, ces films-là, ils ne restent pas en salle longtemps. Ils étaient à l'affiche cette semaine, au CLAP. J'imagine qu'on peut l'écouter en ligne, quelque chose comme ça. Je vous recommande vraiment. C'est un beau film sur la nature, notre lien avec les animaux. C'est un film formidable. Puis, en lien avec ça, je vais vous en parler tantôt. Il y avait un article dans Le Devoir là-dessus. C'est qu'il y a un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Les forêts anciennes ». Et je vais avoir l'auteur... qui s'appelle M. Grenier, Gabriel Grenier,
au début du mois de mai, qui va venir nous parler des forêts anciennes. Ça va être vraiment intéressant. Aussi, dans les activités à venir, le 14 avril, au Centre Frédéric Bach, on va avoir un cercle de discussion sur Aristote et l'écologie. Alors, si vous voulez apprendre, vous initier à Aristote, c'est un diplômé de philosophie au Mexique, de Puebla, au Mexique, qui va venir faire une présentation, puis on va avoir une discussion qui va suivre sur Aristote et l'écologie. C'est le 14 avril, prochain mardi, pas mardi qui vient, mais le mardi suivant. Aussi, il y a le nouveau Philosophie Magazine qui vient d'arriver pour ceux qui veulent lire, qui se tenir à jour sur les actualités philosophiques. C'est très bien fait. J'ai pas eu le temps de le regarder beaucoup parce qu'il est arrivé en kiosque hier. Là. Alors, Philosophie Magazine, c'est le thème principal, c'est l'Empire, stade ultime du capitalisme. Comme je vous disais aussi, j'ai dans le devoir d'hier, de mercredi, les vieux arbres du Québec sur papier, après des années à suivre leur piste, le forestier Gabriel Grenier signe Forêt ancienne chez Éco-Société. Le livre Forêt ancienne est le fruit de beaucoup de patience. De la patience parce que son auteur, Gabriel Grenier, se passionne depuis plus d'une décennie pour les forêts anciennes du Québec, celles du sud de la province particulièrement, et les parcours avec un calepin, un appareil photo et les yeux grands ouverts. Il publie maintenant un riche essai qui invite irrésistiblement à s'enfoncer parmi les vieux arbres. Tous les Québécois n'ont pas connu l'expérience de déambuler en forêt ancienne. Non seulement ces écosystèmes sont rares, ils représentent 0,08% de la forêt feuillue du Québec, selon une étude de 2003. Mais on peut aussi parfois les traverser sans même s'en rendre compte. Les arbres anciens ne deviennent pas géantissimes comme en Colombie-Britannique. Les nuances sont plus fines, reconnaît Grenier. En conséquence, ces forêts passent souvent inaperçues. Il nous dit un peu plus loin, il existe différentes définitions des forêts anciennes. Par souci de concision, disons que dans le sud du Québec, elles doivent avoir eu la paix pendant au moins 150 ans. Les identifier exige un certain entraînement. Jeune ou vieille, chaque forêt raconte son histoire, insiste Grenier, qui vient de lancer une page Instagram où il apprend aux internautes les rudiments du bois. On peut lire une forêt, dit-il au devoir. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est en librairie. Ça s'appelle « Forêt ancienne ». L'auteur Gabriel Grenier, c'est aux éditions Éco-Société. Et, comme je vous dis, je vais avoir l'auteur en entrevue au début du mois de mai. Alors voilà. Donc, on prend une petite pause musicale et puis on va discuter avec M. Desgagnés de « Zéro déchet ».
La légèreté quitte un matin en sautant dans le premier train et pas sans même nous envoyer la main. Lorsque l'on arrive sur le quai pour tenter de la rattraper, on sait trop bien que le glas sonnait. Comme il faut aller quelque part, on regarde l'heure des départs. Le chaos et le bruit de la gare. Et on se retrouve sans qu'on comprenne, à marcher avec plus de peine, sous le poids de valises un peu plus pleines. Les années passent, file la vie, on prend
prend l'essentiel pour acquis. La légèreté n'est plus que nostalgie. Et on s'attarde de moins en moins aux beautés le long du chemin, à force de courir après le train. Alors avant que l'on s'épuise et que l'on perde nos balises, il vaut mieux parfois poser ses valises. Le train passé en retrouvant un peu de légèreté.
Les Cowboys fringants, la pièce Train de vie, c'est de l'album L'Expédition. Alors, on est avec M. Jean-Yves Desgagnés, qui, M. Desgagnés, professeur retraité, cofondateur du mouvement pour une ville zéro déchet. Pendant près de 25 ans, M. Desgagnés a été engagé activement au sein du mouvement de lutte contre la pauvreté au Québec, notamment en défense collective des droits des personnes assistées sociales. De 2010 à 2024, il a été professeur en travail social à l'Université du Québec à Rimouski, où il a contribué à la création du collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural. Siège également, à ce titre, de président du comité de direction du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion. Depuis sa retraite en 2024, il s'implique activement à titre de citoyen bénévole au sein du mouvement pour une ville zéro déchet et il représente celui-ci au sein du comité de pilotage. Alors, après le comité de pilotage, avenue d'implication de Rendez-vous Limoilou, une démarche en développement des communautés qui travaillent de manière concertée à améliorer les conditions de vie de la population de Limoilou, en particulier celle des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, tout en permettant à l'ensemble des acteurs et actrices d'accroître leur pouvoir d'agir individuel et collectif. Alors, comme je vous disais tantôt, j'ai rencontré M. Desgagnés cette semaine, mardi dernier, une belle activité qui était organisée par votre organisme, je pense. Hein?
Oui, exactement, une soirée de jazz écolo. Hein? Donc,
oui, c'est vrai.
Effectivement, une soirée où on jumelait à la fois, tu sais, dans le fond, le jazz, donc la culture, tu sais, à un enjeu, effectivement, plus écologique, plus particulièrement l'enjeu de la gestion de nos matières résiduelles. Comment on gère nos déchets, hein, si on peut dire.
Puis on avait trois autres panélistes. On avait quelqu'un de la Ville de Québec, franchement intéressant.
Oui.
Et encourageant même, parce que c'était un écologiste, dans le fond, un conseiller. Puis il avait l'air à dire que le nouveau conseil municipal de M. Marchand est essentiellement composé d'écologistes. Ça, c'est surprenant, là.
Oui, effectivement, c'est un virage par rapport à l'administration Labeaume qui a été vraiment, là, qui a amené de nombreux reculs, tu sais, dans le fond, sur ces questions-là. Mais effectivement, on sent qu'avec la nouvelle administration, il y a une plus grande sensibilité, tu sais, à ces enjeux-là, effectivement, les enjeux plus de qualité de l'air, par exemple, et aussi de pollution qu'on génère en ne gérant pas bien nos déchets. Donc, on sent qu'il y a une ouverture, il y a une écoute. Hein, c'est M. Lebailly, c'est Raphaël Lebailly. Là, qui est un conseiller de du district, je pense, de Desmonts à Charlebourg, mais aussi qui est associé au comité exécutif. Il y avait aussi M. Pierre Escot, de la vieille, qui a été très... En fait, d'ailleurs, moi, j'ai découvert M. Escot, dans le fond, ça fait très longtemps qu'il est, dans le fond, qui s'intéresse au développement. Lui, à l'époque, on parlait de développement durable, tu sais, mais toute la question, effectivement, de l'économie circulaire. En fait, peu à peu, il s'est plus orienté vers l'économie circulaire. Donc, quelqu'un qui a vraiment vraiment toute une expérience, une expertise, puis aussi qui s'est impliqué en politique active dans les débuts du ce qu'on appelait à l'époque le Rassemblement populaire.
Ben oui, ben oui.
Donc alors, puis aussi il y avait Audrey Roberge de Coop Carbone, hein, qui est un organisme qui est une espèce d'organisme qui se veut un incubateur qui veut favoriser effectivement le développement effectivement d'initiatives, qui par exemple comme la patente. Donc comment on peut ces initiatives-là dans le fond les renforcer, les étendre dans le fond pour que partout effectivement dans le fond on réutilise par exemple ou qu'on réemploie des matériaux qui normalement vont à l'incinérateur mais qui ne devraient pas y aller finalement. Alors donc.
Puis je pense aussi qu'ils sont impliqués dans le dossier de la bourse du carbone aussi. Mais ça, c'est plus à une autre échelle. Là.
Probablement, effectivement. Je sais qu'ils ont été... En fait, ils ont été à l'origine du premier centre de réemploi là, dans le secteur des rivières. Là. Il y a un centre de réemploi et Coop Carbone a été un peu l'acteur, dans le fond, qui a mis ensemble la patente, Craig Bitume, la Ville de Québec, pour mettre en place ce centre de réemploi-là qui devrait, d'ailleurs, il devrait en avoir dans tous les éco-centres de la ville, d'ailleurs.
Parce que j'ai eu en entrevue, je pense qu'il n'est plus avec Coop Carbone, mais il était longtemps avec eux autres, Jean Nollet, et c'était un expert en changement climatique parce que lui, il s'occupait des crédits de carbone. Là. Les crédits de carbone, c'est plus à niveau industriel. Là. Les individus, on peut en acheter, mais c'est le gros de la bourse du carbone, c'est des gros acheteurs,
c'est des gros acheteurs.
Industriels. Et là, il fallait qu'il soit comme quand même je veux dire, instruit sur les changements climatiques. Alors, il va depuis plusieurs années, au GIEC, là, chaque année. Là.
Okay.
Pas au GIEC, mais à la COP, excuse. La COP. Il est allé à plusieurs COP, donc il revenait. On l'a eu en entrevue souvent, c'était intéressant parce qu'on avait une explication de l'intérieur, là, parce que la COP, ce qu'on voit, c'est juste à la surface.
Ouais.
Il m'expliquait que ça se passe, c'est dans les coulisses. Là.
Exactement. En fait, la COP, c'est comme un peu le résultat de tout un processus qui est derrière tout ça.
Tous les experts du monde sur les changements. Ouais. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça, le Coop Carbone.
Oui, exactement.
Bon, alors on va arriver dans notre sujet aujourd'hui. Fait que,
D'abord, je voulais te remercier, Jacques, pour l'introduction, dans le fond, de nous avoir invités à éveiller nos consciences, dans le fond. Donc,
oui.
On sait qu'on est dans une société qui est très bien organisée. Le capitalisme, dans le fond, est vraiment bien organisé pour nous empêcher de penser.
Oui.
Et donc, alors, tout est fait, dans le fond, pour qu'on consomme, surconsomme, qu'on court après notre temps, tu sais, et tout ça fait en sorte que finalement, on ne prend pas le temps de respirer et de réfléchir, dans le fond. Alors, donc, dans ce sens-là, ce que je trouve que ton introduction amenait bien le sujet.
C'est l'éveil, hein? C'est ça que Thoreau dit, il faut se réveiller.
Exactement.
Parce qu'on est endormi, puis malheureusement, nous autres, on est le comité Simplicité volontaire. Là, malheureusement, les publicitaires savent ça, que les êtres humains sont endormis, puis on a des failles, des faiblesses, puis une de nos faiblesses, bien, c'est qu'on aime ça consommer, mais on achète du vent, ils nous vendent du vent, puis... Bien, c'est ça, on se fait avoir, là.
Exactement. Donc, en fait, on fait, comme tu dis, on nous endort, puis on nous formate. Moi, je disais souvent à mes étudiants, donc, on est une société qui nous formate, qui nous apprend à dire être un citoyen, c'est avoir un gros char, c'est avoir
Exactement.
Une grosse maison, c'est
Exactement.
Avoir, tu sais. Alors, on est formaté depuis la tendre enfance, tu sais. Alors, donc, de déconstruire, effectivement, tu sais, dans ce sens-là, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les citoyens, mais il faut plutôt se dire... On est formaté et c'est possible de se déformater finalement et parce que, tu sais, dans le fond, on peut faire autrement.
Bien, les humains, on est comme ça, on vit d'histoire. On a des histoires où on aime ces... Et tu sais, par exemple, la grosse voiture, c'est un bon exemple. Dans le fond, qu'est-ce que c'est une voiture? C'est un moyen de transport. Fait que si t'as, mettons, le modèle le plus bas de gamme que t'as, là, dans le fond, lui, il fait la job, là. Il fait la job, il transporte du point A. Il y a peut-être un radio dedans. Puis, bon. Mais tout ce que c'est qui est plus cher, là, ça, c'est de l'histoire. C'est une histoire dans ta tête. Fait que là, il dit, ah, ben là, il y a telle marque, puis tout ça, puis telle chose, puis telle affaire, puis telle... Mais dans le fond, c'est pas essentiel au déplacement. C'est juste une histoire dans ta tête, là. Et puis là, c'est ça que les publicitaires font. Ils nous vendent l'histoire.
Ils nous vendent l'histoire, nous vendent leur rêve, comme c'est tu ça. Dis, alors que finalement, au départ, c'est un moyen de transport.
Donc,
qui nous amène d'un point A à un point B, tu sais.
C'est ça.
Alors,
c'est ça.
Je suis d'accord avec toi là-dessus.
Oui. Puis, ben, justement, on embarque dans notre sujet, oui. C'est que on est une société de consommation.
Absolument. Depuis de surconsommation.
De surconsommation.
D'ailleurs, tu sais, dans le fond, c'est un peu ce qui a amené l'ONU. Tu sais, dans le fond, la Journée internationale du zéro déchet, décrétée par l'ONU, c'est depuis 2022, tu sais. Puis une des choses, un des messages, dans le fond, qui est livré par l'ONU, tu sais, c'est de dire que si on, en fond, présentement, on produit entre 2,1 milliards et 2,3 milliards de déchets, d'ici 2050, ça devrait être 3 milliards, tu sais. On est en train, tranquillement, de s'enterrer collectivement sur nos déchets. Et tout ça, ça contribue, tu sais, dans le fond, à des... parce qu'il faut les gérer, ces matières-là, puis comme on les gère mal présentement, ben ça pollue, parce que souvent, on va les enfouir ou encore on va les incinérer. Donc, ça crée de la pollution atmosphérique, tu sais. Et cette pollution atmosphérique-là a des conséquences sur la santé humaine, tu sais. Et une chose qu'on oublie souvent, c'est que ça produit des gaz à effet de serre. Donc, par exemple, rien que l'incinérateur ici de Québec, là, c'est 14 tonnes par année de GES qui sont émis par l'incinérateur de Québec. Et ça inclut pas les 40 000 camions qui transportent les matières. Alors, donc, l'incinérateur de la ville de Québec, là, ou de la communauté métropolitaine de Québec, c'est vraiment une industrie, un générateur important de GES et de pollution atmosphérique nocive pour notre santé.
Puis c'est ça le dossier que vous autres, le mouvement pour une ville zéro déchet, parce que, on s'en parlait tantôt, nous, aux Amis de la Terre, moi, je suis un comité, le comité Simplicité volontaire aux Amis de la Terre, mais on a le comité zéro déchet aussi aux Amis de la Terre. Puis nous, c'est plus à l'échelle individuelle, hein? C'est des pratiques zéro déchet. C'est souvent ça, quand on voit, par exemple, les épiceries zéro déchet, mmh. C'est que tu vas là, puis tu apportes tes contenants, puis c'est une pratique individuelle de réduire. Puis ce qu'il faut, c'est qu'il faut le faire aussi, notre propre ça commence par là.
Oui, absolument. Je pense que nos comportements, hein, dans le fond, donc effectivement, c'est un premier geste qu'on peut poser, c'est de changer nos comportements, tu sais. Par exemple, réfléchir avant d'acheter, par exemple, un produit, déjà, as-tu vraiment besoin, tu sais. Alors donc, oui, tu as raison, Jacques. Puis ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont cette conscience-là qu'il faut changer nos comportements au plan individuel, tu sais. Mais nous, le mouvement, en fait, on considère que c'est, il faut agir aussi à d'autres niveaux. T'sais. Alors oui, il faut continuer, il faut encourager ces initiatives-là, puis il y en a plein de belles initiatives. Alors dans ce sens-là, effectivement, c'est... Alors nous, ce qu'on demande... En fait, nous, on veut plus agir auprès des acteurs politiques. La Ville de Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, parce qu'ils ont un rôle à jouer, dans le fond, par des lois, par des règlements, par la fiscalité, on peut agir. Des exemples de ça, par exemple, qui ont contribué à changer nos comportements. Il y a très longtemps, moi, je me rappelle, tout le monde pouvait, c'est encourager qu'on fume. Hein, donc, même on allait à l'hôpital, tout le monde fumait, tu sais, écoute, c'est... Alors, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, c'était... Tout le monde fumait, tu sais. Et là, tranquillement, par de la sensibilisation, de l'éducation, par des lois, hein, où on interdit de fumer dans les espaces publics, tranquillement, on a amené à changer nos comportements. Oui, il y avait les individus qui avaient à faire des... Il y avait un geste individuel à faire aussi. Mais donc, par des lois, des règlements, par des mesures, tu sais, on peut changer les choses. Même chose pour le port de la ceinture de sécurité. Longtemps, dans les automobiles, hein, il n'y en avait pas de ceinture de sécurité. Les gens mouraient, tu sais, dans le fond, dans les accidents. Alors, tranquillement, alors les gouvernements ont été obligés de légiférer pour que les constructeurs automobiles installe des ceintures et ensuite que les citoyens les portent, ces ceintures-là. Donc, à un moment donné, on commence toujours par, on fait de la sensibilisation, de l'éducation. Puis à un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, ben là, on utilise un peu plus le bâton, finalement, tu sais, dans le fond. Donc, pour dire, écoutez, là, c'est belle valeur, vous aurez une contravention si vous ne portez pas votre ceinture. Donc, on a réussi, tu sais, les sacs de plastique à usage unique, tu sais, dans les épiceries. Hein, on a réussi. Alors, oui. Il y a plein d'exemples, tu sais, qui montrent que il faut accompagner les changements de comportement individuel. Il faut les accompagner aussi. Il faut agir aussi sur d'autres dimensions. L'aspect plus, effectivement, d'éducation, de sensibilisation, mais aussi sur le plan de législatif et réglementaire.
Puis c'était ça, le panel qu'on avait mardi dernier. C'était pas, on n'a pas parlé du tout du côté de zéro déchet qu'on habituellement on voit là, de comment aller à l'épicerie zéro déchet, etc.
Exactement. Puis on les encourage. D'ailleurs, ça devrait être encouragé. Tu sais, on pense que, bien, en fait, ça s'inscrit un peu dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Hein. Donc, c'était un des thèmes qui a été abordé. Tu sais, présentement, on est dans une économie où les producteurs ont produit un bien, tu sais, puis on se préoccupe pas, en fond, de la suite des choses. Tu sais, puis, mais ce bien-là, à un moment donné, il se détériore. Puis là, à un moment donné, on fait quoi quand il n'est plus utile? Tu sais, on l'enfouit ou on l'incinère? Ce qu'on appelle l'économie linéaire. Tu sais. Alors, il y a un autre autre type d'économie qui est en train, qui a commencé à émerger, qui se met en place tranquillement, ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire que, dès le départ, le produit qu'on va produire, on va se poser la question, dans le fond, on fait quoi, là? Comment on s'organise pour qu'on récupère, tu sais, à la fin, là, tu sais, dans le fond, ce qu'on a, l'énergie ou les métaux, tout ce qu'on a. Donc, qu'on se préoccupe dès le départ, tu sais, donc, ce qu'on appelle la responsabilité des producteurs, tu sais. Donc, il faut déjà agir là. Ensuite, il faut agir aussi au niveau de la fiscalité, ce qu'on appelle l'éco-fiscalité, c'est-à-dire que, puis on sait que dans les gros générateurs de déchets, puis ça, on n'en parle pas souvent, c'est les ICI, institutions, c'est les industries, commerce, institutions, et les CRD, construction, rénovation, démolition. 66 % des déchets, c'est eux autres qui les génèrent. Et malheureusement, hein, quand on va dans un café ou qu'on va dans un restaurant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours en place, là, il n'y a pas de bac pour les déchets, c'est pas toujours clair. T'sais.
Ça s'en vient, par contre, on le voit de plus en
commence,
plus. La poubelle bleue, tu vas prendre un café quelque part, puis il y a de la poubelle bleue. Là.
Ça change, là, mais en même temps, il y en a qui résistent, il y en a qui, c'est la loi du moindre effort, les industries, les commerces. Là. Alors là aussi, il va peut-être falloir, puis la Ville le pense, hein, la Ville a commencé à parler que on va taxer maintenant, si les industries, commerces, institutions ne réduisent pas leurs déchets, bien, il y aura une taxe, dans le fond, pour une surtaxe, dans le fond, qui sera imposée, ou encore on récompensera les bons comportements. Alors, c'est ce qu'on appelle l'éco-fiscalité.
On va prendre une pause musicale, puis là, au retour, on va embarquer dans le macro, là, ce qu'on a, qui était notre, finalement, la présentation le mardi dernier.
Oui.
Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde. Je m'envolerai quand je serai au bout de ma route. Je m'envolerai pour quitter cette terre et tout si d'autres. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai pour un monde où il n'y a pas de haine. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai.
Quelle belle chanson.
Fred Pellerin, Je m'envolerai, c'est de l'album Après. Alors, c'est ça. Comme je disais, on avait un bel événement mardi dernier, un panel. Puis c'était le macro, la vision de la gestion des déchets. On parle du PGMR, Programme de gestion des matières résiduelles. C'est un... On avait, comme je disais, le monsieur de la Ville de Québec, monsieur de Bailly, qui disait qu'on, dans la région de Québec, on gère 870 000 tonnes de déchets.
Exactement.
Et ça représente trois stades olympiques et demi. Le stade olympique est rempli de déchets trois fois et demi.
C'est pas rien.
C'est pas rien. Et le budget annuel, 43 millions pour gérer ça. Mm-hmm. Et bon, seulement les sacs mauves, c'est 11 000 tonnes de déchets.
Exactement.
Ça, on va en parler un peu, là, tout le dossier du compostage, puis il y a un petit peu de controverse là-dedans.
Oui,
là.
Effectivement.
Et on parlait aussi du matériel informatique, un organisme qui s'appelle Signe d'espoir. Mm. Je ne le connais pas. Est-ce que tu connais?
Ils sont dans Limoilou, en fait. Ils sont sur... C'est Ordilivre, là. C'est dans Ordilivre et... c'est sur la troisième avenue, on sait que okay. C'est Ordilivre. C'est Signe d'espoir.
C'est dans Ordilivre?
Oui, c'est ça.
Ah, c'est OK.
C'est comme eux qui sont derrière Ordilivre,
okay.
Effectivement.
OK, ouais. OK. Ouais.
Donc, ils récupèrent, comme tu dis, les ordinateurs, hein, puis ils ont un volet aussi pour les livres. Là, donc, il y a plein de belles initiatives comme ça, hein, effectivement. Là. Mm.
Puis, on arrive dans plus ton point, là, qui
ouais.
est le PGMR, Plan de gestion des matières résiduelles. Tu nous disais que l'humanité produit 2 milliards de tonnes de déchets solides municipaux.
Mm.
C'est incroyable.
Exactement.
Alors, c'est là que, oui, il faut y aller individuellement, mais collectivement.
Collectivement, effectivement.
Une meilleure gestion des déchets.
Voilà, c'est ça. Parce que, par exemple, à Québec, tu as parlé un peu des quantités qu'on produit. Là. Tu sais, par exemple, l'incinérateur, chaque année, on incinère à peu près 300 000 tonnes. On brûle 300 000 tonnes, supposément, de déchets. Mais en fait, la majorité, 80 % de ce qui est brûlé, c'est des ressources qu'on pourrait réutiliser, réemployer. On brûle encore du carton, l'incinérateur, tu sais. On brûle encore des... Tu sais, il y a plein d'ensemble de matières qui ne devraient pas se retirer du métal. Par exemple, on ne devrait pas brûler. Oui. C'est pas une fonderie, là, tu sais, l'incinérateur. Tu sais. Malheureusement, il y a des métaux qui sont brûlés là. Bon, alors donc 80 % donc, pourraient être récupérés, réutilisés. Alors, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, parce que là, il y a un enjeu important, Jacques, c'est que l'incinérateur actuel a été construit en 1974. Donc, il est rendu à sa fin de durée de vie utile. Et la Ville se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite des choses? Est-ce qu'on doit remplacer cet équipement-là à l'identique, tu sais, dans le fond, pour traiter autant de matières résiduelles? Là, ça veut dire, le remplacer à neuf, ce sera environ 1,5 milliard que ça pourrait coûter. Ou encore, on le modernise. Là, ça pourrait être un 800 millions, tu sais, pour le moderniser. Alors, donc, il y a comme une réflexion à l'interne. Nous, le mouvement, on revendique, on demande à la Ville, puis ça, ils sont ouverts à ça. On a dit, écoutez, il faut que cette décision-là fasse l'objet d'une consultation puis d'un débat avec la société civile. Il faut que les citoyens soient associés parce que là, c'est une décision qui va avoir des impacts sur nos enfants et petits-enfants. Une fois qu'on a construit c'est un gros équipement, là, elle va durer encore, tu sais, ça fait presque un siècle là, qu'on a un incinérateur à Québec. Donc, alors, c'est pour le prochain siècle. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un débat. Et là, la Ville nous a dit, oui, on va mettre de l'avant, là, tu sais. Puis nous, on veut que, dans les scénarios, entre autres, qui soient étudiés, nous, on voudrait qu'on étudie le scénario de dire qu'on utilise l'incinération uniquement pour les déchets ultimes. C'est-à-dire que, plutôt que d'en incinérer 300 000 tonnes, on devrait en incinérer peut-être un 50 000 tonnes parce qu'on ne sait pas quoi faire avec eux autres. Okay? Donc, que dans les scénarios, on évalue celui-là d'un incinérateur qui serait beaucoup plus petit, tu sais, et qui coûterait beaucoup moins cher. Et en bout de ligne, c'est que l'argent qu'on ne mettra pas dans l'incinérateur, bien là, on l'investit dans soutenir, tu sais, dans le fond, parce qu'un incinérateur, c'est 1,5 milliard. Un qui traiterait les résidus ultimes, c'est autour de 500 millions. Donc, on pourrait économiser 1 milliard et là, on pourrait prendre une partie de cet argent-là pour soutenir, effectivement, tous les projets d'économie circulaire, tu sais, dans le fond, et développer cette économie-là, faire encore un gros travail, effectivement, tu sais, auprès de des citoyens pour les sensibiliser. Alors là, on aurait un levier, tu sais, important pour faire le virage. Parce que finalement, ça va prendre un 10-15 ans là, avant de, qu'il soit construit, ce nouvel incinérateur-là. Mmh. Et d'ici là, bien, naturellement, il faut que nous, on réduise au maximum. Alors, donc, c'est un peu
c'est
nous.
C'est une belle opportunité.
Exactement. C'est une opportunité vraiment de changer de paradigme, tu sais, dans le fond, puis de dire, bien, on va viser le zéro déchet. On sait que c'est un objectif ambitieux, puis peut-être qu'en bout de ligne, on ne réussira pas vraiment à atteindre le zéro, mais il faut le viser, tu sais. Puis il faut prendre les moyens et les mesures pour le faire. Alors, c'est pour ça que nous, là, comme mouvement, là, ça va être comme d'ici la fin du mandat du maire Marchand, là, c'est vraiment nous autres de s'assurer qu'il y a un débat, puis s'assurer qu'on prenne la meilleure décision pour l'avenir. Et effectivement, l'avenir où on va cesser de brûler 80 % de ressources, de déchets qui sont en fait des ressources. Voilà.
Puis il y avait madame de Coop Carbone qui parlait, ils veulent ouvrir un centre d'achat. Une ressourcerie, un centre d'achat ressourcerie. On a d'ailleurs eu un invité ici, Sarah Grenier, qui, elle est directrice de la ressourcerie Nos Choses. Sur Père Marquette. Oui. C'est vraiment formidable ce qu'ils font. Puis elle, on va organiser avec elle une soirée là, avec un PowerPoint dans la ressourcerie sur l'économie circulaire.
Absolument.
Il y a une dynamique, là. Il y a une dynamique qui se passe.
Absolument. Il y a plein de belles initiatives, tu sais, dans le fond, collectives. Là, tu sais, dans le fond, initiées comme Nos Choses, c'est un beau projet. Tu sais, on a la friperie du Pavois, par exemple. Moi, j'ai entendu, je sais que le rendez-vous de Limoilou, par exemple, ils veulent réunir toutes les friperies, effectivement, pour peut-être qu'ils se concertent, qu'ils mettent en commun peut-être des ressources. Puis effectivement, tu sais, parce qu'il y a plein de débouchés, par exemple, les vêtements, quand ils sont trop usés, il n'y a pas de débouché pour ça. Alors, pourtant, on a une matière, tu sais, qu'on pourrait utiliser pour d'autres choses, tu sais. Et là, comme Coop Carbone pourrait aider à dire, bien, écoute, on sait qu'il y a tel type d'entreprise qui pourrait faire telle chose, par exemple. Tu sais, par exemple, les cafés. À Montréal, par exemple, une petite entreprise, dans le fond, qui produit des champignons, et sa principale ressource, c'est les cafés du coin. Donc, ils récupèrent, dans le fond, le marc de café, et ça devient un intrant important pour développer des champignons, puis toutes sortes de variétés de champignons, tu sais. Et là, tu dis, développe des champignons, tu as des petits restaurants, donc ça devient, tu sais, dans le fond. Alors, c'est ça l'économie circulaire, finalement, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? Donc, Einstein avait déjà pensé à ça.
C'est une nouvelle dynamique sociale.
Absolument.
Comme qu'est-ce qui est bien, on n'en a pas beaucoup, c'est les repair cafés. Ça serait le fun qu'on en organise un peu, là.
La patente en font, hein? La patente.
La patente le font, mais eux autres, c'est fouteille à...
Place.
C'est structuré, c'est correct. Eux autres, c'est parce qu'ils ont un loyer à payer, puis ils doivent... Alors, faut que tu payes un peu, là, mais... Ce que j'aime des repair cafés, c'est que c'est gratuit. Moi, j'en ai fait des activités de... C'est pas des repair cafés, mais comme de réparation de vélo. J'ai fait ça beaucoup, là. Okay. Les gens apportaient leur vélo, puis on les réparait gratis, là.
OK. Ah oui.
Mais ça, c'est... les repair cafés, c'est plus... c'était plus de l'entretien. Réparer un vélo, c'est de l'entretien.
Ouais. Mais, il y a les vélocentristes qui existent, qui
ont été créés. Oui, puis la coop roue libre.
Oui, c'est ça. Puis vélo vert aussi.
Vélo vert, puis la patente aussi. Mais les repair cafés, ça, c'est de l'économie circulaire. T'as un vieux grippin ou whatever chez vous là, qui ne marche pas. Des fois, c'est juste une petite affaire, un petit fil, puis tu sais pas. Puis là, les gens vont te le...
Tu t'es aidé à le réparer ou le réparer. Oui, oui. Effectivement. Non, c'est, comme tu dis, je pense qu'il y en a plein d'initiatives. Puis nous, on regarde. Vous savez, tu sais qu'un aussi des gros générateurs de déchets, c'est les hôpitaux. Hein. Nous, on a l'hôpital Enfant Jésus, par exemple. C'est un gros générateur de déchets. Puis il vient d'avoir une étude, entre autres, qui a été faite par un prof de l'Université de Sherbrooke, là, qui a démontré, dans le fond, que chaque milieu hospitalier produit pour environ 53 kg de déchets par année, si on le met en termes de citoyens. Là. C'est quand même énorme, tu sais. Et là, ils ont commencé à travailler des projets pilotes à Sherbrooke, entre autres, tu sais, pour démontrer comment on peut changer nos façons, peut-être, tu sais, dans le fond, de gérer ces matières-là, tu sais, des fois qui sont souvent suremballées, sont dans une boîte, sont dans un petit morceau de plastique, sont dans... finalement, ça... Puis là, ça s'en va tout, tu sais, dans le fond, dans la poubelle, là, alors que finalement, on pourrait tout les récupérer. Donc, il y a tout un travail, mais ça va falloir aussi que les gouvernements...
Et des changements de mentalité. J'ai vu un beau reportage, il y a un Québécois qui s'est spécialisé dans les hôpitaux verts, autrement dit, rendre l'hôpital vert. Puis il a commencé au Québec, puis il y a tellement eu de résistance que il est installé à Singapour. Eux autres, ils disent, nous autres, on aime ça, ton tes idées.
Okay.
Et lui, il est à Singapour, puis il est en train de verdir les hôpitaux là-bas. Puis, il donnait l'exemple que les gaz qui servent là, pour endormir, là, les anesthésies, les gaz anesthésiens.
Très polluant, hein, c'est ça?
Très polluant. Mm. Puis, il y a un gaz alternatif qui existe.
Bon.
Puis là, il a dit aux hôpitaux ici, bien, regardez, il y a cette alternative-là qui est beaucoup moins polluante, mais meilleure. Ils ont refusé. Et puis, il est allé en Singapour, puis il dit, bien, nous autres, on va faire ça. C'est une bonne idée. Alors, il y a de la résistance, là.
Absolument. On est en train de se faire dépasser par les pays asiatiques. Hein. On sait que, au niveau, par exemple, de l'énergie solaire, la Chine, ça a l'air qu'ils ont fait
absolument.
Un virage. Alors, si nous, on ne change pas nos comportements, puis si on ne change pas nos façons de faire, tu sais, on va être dépassé.
La Chine sont tellement en avance sur nous autres de ce côté-là. Ben, il y avait justement Jean Nollet de Coop Carbone il nous expliquait qu'au GIEC, on a des prévisions pour les changements climatiques. Puis là, ça a été réduit à la baisse. Autrement dit, c'est moins pessimiste. Mm-hmm. Puis il dit c'est à cause de la Chine.
Ouais.
La Chine, c'est un des gros émetteurs de CO2 à cause du brûlage au charbon.
Exactement.
Ils ont tellement réduit que là, on n'est pas encore sorti de la crise, là, mais on a fait un bon pas avec ça. Alors, puis ici, on a des résistances, c'est incroyable.
Bien, puis, par exemple, par rapport, si je reviens aux hôpitaux, par exemple, nous, on a rencontré la direction de l'hôpital là, qui s'occupe un peu de la gestion des déchets, des matières résiduelles, et là, ils nous ont dit, avec la nouvelle, le changement au niveau de la consigne, là, ils ont des nouvelles obligations, puis là, ils savent plus comment ils vont être capables de gérer tous les contenants qui... Et là, nous, on leur a dit, écoutez, arrêtez de penser dans votre boîte. T'sais. Vous avez un organisme comme les Valoris, par exemple. T'sais. Pourquoi ne faites pas des maillages? Vous pourriez fournir une matière première à un organisme qui pourrait, elle, effectivement, faire le traitement. Et ça rien que, dans le fond, d'avoir une entente. T'sais. Puis, si vous ne pouvez pas le faire, on peut comprendre que vous autres même, ce n'est pas dans votre champ d'expertise. T'sais. Mais associez-vous. T'sais. Alors, donc, sortir un peu du travail en silo. T'sais. Puis, effectivement, s'associer à d'autres acteurs t'sais, qui, eux autres, portent à bout de bras de belles initiatives t'sais, qui vont dans le bon sens, qui va dans le sens de la survie de notre planète. T'sais. On a besoin de changer vraiment nos façons de faire.
Puis on parlait tantôt, il y a tout un autre gros dossier qu'on va aborder un petit peu parce qu'on n'a pas le temps. C'est le dossier de l'usine de biométhanisation. Là.
Oui.
Puis le compostage, on en a parlé tantôt. Là. On pourrait biométhiser seulement les boues municipales puis pas gaspiller notre ressource qui est le compost. Là.
Oui, écoute Jacques, alors oui, effectivement, on pourrait faire une émission uniquement là-dessus. Là, sur cette
ben oui, peut-être que je vais te réinviter puis on pourrait faire une émission là-dessus. Puis j'en ai parlé. Moi, les feuilles, tu sais, c'est des habitudes.
Oui.
Moi, mes feuilles, j'y ramasse même plus. Puis là, même les biologistes, ils disaient, passe la tondeuse dessus, ça se décompose plus. Mais l'idéal, là, tu fais rien. Tu les laisses là. C'est ça qui est le mieux, là. Parce que là, tu as tout un écosystème en dessous des feuilles, tu sais.
Ben oui.
Puis là, ben j'en ai parlé au type de la ville. Et évidemment, on n'est pas rendu là. C'est la mentalité. Tu demandes à n'importe qui, pourquoi tu ramasses les feuilles? Bien, il faut les ramasser. Pourquoi? Bien, je ne sais pas, il faut les ramasser. Tu sais, c'est absurde, un peu absurde. Mais la ville va exiger cette année que ça soit juste en sac de papier.
Enfin.
Fait qu'il y a déjà un pas, là.
Exactement. Tu sais, pour revenir à la question de la biométhanisation, nous, quand il y a eu le projet de biométhanisation, nous, comme mouvement, on a fait des représentations auprès de la ville en disant, écoutez, que vous biométhanisez les bouts, ça va, parce que c'est liquide, tu sais, ça se biométhanise bien, puis on peut faire effectivement du gaz avec ça. Nous, on n'était pas d'accord qu'on biométhanise, c'est les résidus alimentaires, parce que, d'une part, ça coûte cher, là, l'usine de biométhanisation, de faire fonctionner ça. Et ça se composte bien, les résidus alimentaires, tu sais. Alors, pourquoi on n'a pas plutôt opté pour cette méthode-là qui est vieille, hein, qui existe depuis très longtemps, tu sais. Puis, on aurait pu encourager, justement, par quartier, tu sais, dans le fond, le compostage. Tu sais, les gens se font des jardins, tu sais, les jardins communautaires, tu sais. Alors, on aurait pu, dans le fond, avoir de petits endroits pour composter. Puis, quitte à avoir même les autres résidus alimentaires, ils sont compostés. T'sais, on aurait même pu prendre une entente avec Lévis pour dire, écoutez, voilà, on a des surplus de résidus alimentaires, pouvez-vous les composter? T'sais? Alors, non, ça là-dessus, c'est vraiment... Puis en plus, c'est que le problème qu'il y a, au départ, on nous disait, on va biométhaniser les bouts d'un côté puis les résidus alimentaires de l'autre. Sauf que là, ce qu'on a, là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire rien que biométhaniser les résidus. Il faut qu'ils les mélangent. Ils les mélangent avec les bouts. Alors, donc là, on est en train de détruire. T'sais, là, on ne peut plus réutiliser.
Non, c'est
plus du compost qu'on produit. C'est ce qu'on appelle du digesta qui est contaminé par les bouts municipales.
Ben oui, c'est toxique.
Voilà, exactement. Alors,
on
ne
peut pas mettre ça sur des terres agricoles. D'ailleurs, j'ai entendu qu'ils mettaient ça sur des terres agricoles. J'en venais pas, là.
Oui. Oui, ils disent qu'ils ont eu des autorisations du ministère de l'Environnement. Parce que nous, on serait curieux de voir, effectivement, c'est quoi les...
Oui, eux autres, là, ceux qui font ça, ils n'ont pas la certification bio. Là. Et on prend une dernière petite pause musicale. Pour retour, on va conclure. Là,
Merci, Jacques.
Pause musicale. Il nous reste quelques minutes pour conclure. C'est ça, là. On a parlé d'énergie, pas d'énergie, mais d'économie circulaire. Actuellement, on a tendance à avoir une économie linéaire qui mène au dépotoir puis à la destruction. Là, il faut recycler, il faut développer une énergie circulaire, une économie circulaire. Il y a plusieurs organismes qui contribuent à ça, dont votre organisme, exactement, qui est un peu comme une espèce de fédération de tous ces organismes-là. Il y avait d'ailleurs M. Racicot qui nous parlait de son organisme s'appelle...
Ville et région innovante, zéro carbone, je
pense. Ville et région innovante, oui, oui. Ouais,
en économie circulaire, zéro carbone.
Hein? Oui, un beau dépliant.
D'ailleurs, en fait, c'est une belle initiative. En fait, lui, ce qu'il met de l'avant, le vrai, c'est de dire que si on veut vraiment atteindre l'objectif de réduire, tu sais, il faut mobiliser les citoyens par quartier. Alors lui, dans le fond, son approche, c'est de dire, tu sais, dans le fond, donc, que les citoyens d'un quartier soient responsables d'écouter, là, on va se responsabiliser de nos déchets. Hein, donc, pour s'assurer, effectivement, dans le fond, qu'on en produise le moins possible. Donc, il invite vraiment à une mobilisation citoyenne par quartier. Donc, c'est une approche très décentralisée. T'sais. Présentement, on a toujours une approche, on va tout centraliser parce qu'on prétend que, tu sais, on fait une grosse usine, puis là, ça va coûter bien moins cher. Mais si on veut vraiment changer aussi, il faut rapprocher, le traitement des matières des citoyens. Donc, ça, c'est une des approches qu'ils préconisent. Puis, ils ont commencé, d'ailleurs, là, dans le fond, ils ont un travail qu'ils font auprès des conseils des pour les sensibiliser effectivement à l'économie circulaire. T'sais. Alors nous, on les encourage. En tout cas, d'ailleurs, on va essayer de travailler plus en étroite collaboration avec les autres parce que ça va dans le sens de ce que nous, on met de l'avant, là, dans le fond, donc l'économie circulaire. Puis l'idée de dire, ben, effectivement, responsabilisons les quartiers. De dire, ben, écoutez, dans notre quartier, là, on en produit combien, nous autres, de tonnes de déchets par année? Puis c'est quoi un peu, donc il y a un travail en amont, là, de prise de conscience de c'est quoi qu'on génère. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, dans le fond, là, puis faire autrement? Et là, effectivement, peut-être que là, le compostage deviendrait quelque chose de plus important. Tu sais, donc,
pour avoir des bacs collectifs, Sinon, moi, je le fais dans ma cour, mais c'est pas tout le monde qui a une cour. Là.
C'est ça, exactement. Mais... C'est plus de compostage communautaire comme le CAC Bitume hein, qui ont développé toute une formule oui. comme ça, par exemple. T'sais. Puis on peut y arriver à Montréal, par exemple, dans l'arrondissement Saint-Laurent. Ils ont eu toute une approche. Autres, ils ont vraiment pris une approche vers le zéro déchet. Ils ont, malgré l'augmentation de la population sur une période de 20 ans, je pense, ils ont réussi à réduire, effectivement, dans le fond, les déchets qu'ils génèrent. Mais ils ont mis en place des mesures, par exemple, ils ont des agents de sensibilisation. Ils ont embauché des personnes qui vont voir les citoyens, qui vont voir les commerces. Pour, parce que des fois, c'est pas toujours de la mauvaise volonté. Des fois, parce qu'on ne sait pas qu'on peut faire autrement ou on ne sait pas que mon objet... Tu sais, il y a un éco-centre mobile, là, par exemple, qui va arriver dans mon quartier où je pourrais aller porter mes objets que je, tu sais, que dans le fond, qui sont plus utiles. Ou, tu sais, alors, y aller par quartier, je pense que c'est une approche intéressante, là, mise par Ville et Région innovante.
Malheureusement, on est obligé de terminer l'émission.
Oui.
On a déjà fini. Ça dure une heure seulement. Mais on pourrait refaire une autre émission sur le